L'immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleur et Neige, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et oui, on vous l'avait dit, on ira dans tous les territoires, on ira dans les villages, les hameaux, les centres-bourgs, les petites villes. On est très heureux d'être ici à Aussois. Alors je vais la faire un petit peu en mode nostalgique, si vous voulez bien. Et je vous ai fait un petit texte dans ce bon village de Soie. Rappelez-vous, dans les années 60, 70, pour ceux qui ont un certain âge et qui ont vu bercer leur imaginaire par Max Meynier, par Lucien Jeunesse et par d'autres, bien sûr, grands de la radio, je vais vous dire, chers amis, bonjour. Voilà. Rappelez-vous, c'était le jeu des 1000 francs. Il existe toujours, hein. Vous savez, il existe toujours en formule. On est ici dans le village d'Aussois qui est accueilli, on est accueilli de façon très hospitalière par les Aussoyens et les Aussoyennes. On est proche du parc archéologique de Loz. Ce site témoigne, je ne sais pas si vous le savez, mais vous le savez certainement, d'une occupation de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On a reconnu des signes. Et effectivement, c'était un site habité. Et bien sûr, dans l'imaginaire collectif, Aussois a pu être peut-être un village, peut-être le dernier village gaulois, appelé Ocelum, la capitale du peuple gaulois des Graillocelles. Alors je vais vous le dire, nous n'avons pas de traces historiques avérées. Ça a été rapporté au Moyen-Âge par un chanoine qui s'appelait Don Rocher. Et ensuite, on va basculer en 877. C'est ici que le roi Charles II, le Chauve, a trépassé, mais juste avant, accueilli par un gentil berger. Il est ensuite, effectivement, passé de vie à trépas. On va faire quelques siècles après, devenu sous Napoléon Ier, un des 6 départements du Piémont qui a été rattaché à la France et ensuite, bien évidemment, en 1815, avec l'abdication de Napoléon, réintégré dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Pour revenir enfin à la France, il était temps, en 1860, par le traité de Turin. C'est un lieu célèbre. C'est un lieu célèbre ici, puisque sur le barrage de Plan d'Amont, en 1956, Yves Allégret a tourné un film qui s'appelle La meilleure part, je ne sais pas si vous le savez, avec dans le rôle titre Gérard Philippe, extraordinaire, et Gérard Oury, qui était dans ce film. La meilleure part, vous savez, c'était cette idée que des hommes étaient prêts à sacrifier leur vie à un ouvrage du génie civil. Voilà, c'est un formidable film, malheureusement un peu oublié. Je vous conseille, les amis, si vous nous écoutez, de le retrouver. Il est disponible, effectivement, sur la collection culte des films de René Château. Voilà. Et enfin, en 1963, une formidable initiative. Vous le savez, c'est la création du parc national de la Vanoise, qui regroupe 28 communes. Ça a donné une impulsion formidable pour le tourisme, la randonnée, le ski, l'hiver, l'été, mais là aussi la découverte de la faune et de la flore. Et c'est ici, dans cette maison, Fleur et Neige, qui a été créé en 1957 avec cette qualité d'accueil particulière qui est liée peut-être à ce que j'appellerais l'économie sociale et solidaire, dans lequel finalement la ligne d'Excel dans lequel on a un retour sur investissement n'est pas toujours le critère de choix, mais peut-être ce qu'on appellerait des ratios extra-financiers, peut-être sur le développement durable, peut-être tout simplement sur une approche philosophique de l'urbanité au sens propre du terme, c'est-à-dire la cohésion entre nous tous, de pouvoir de façon apaisée vivre ensemble et pas traverser des épreuves. Et Dieu sait qu'en ce moment, les épreuves, on en traverse. Voilà, un lieu d'hospitalité. Et on pourrait d'ailleurs, pour conclure ce petit édito, chanter le chant des Allobroges. Vous savez, il y a un hymne national en Savoie. Le chant. Alors, je vais pas vous le faire. Franchement, je vais pas vous le faire.
Non, vous le faites, si vous voulez.
Mais voilà. Ah, vous le faites ?
Je ne vais pas me lancer là-dedans.
Attendez, il ne faut pas dire ça à un journaliste de la radio. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Le chant des Allobroges, c'est le peuple des Allobroges qui habite le territoire depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est un peuple celtique. Il faut aussi, pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Et je crois, et c'est pour ça, chers amis, que je suis ravi d'être avec vous, avec deux personnalités de la région. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Furbert. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes maire adjointe de la commune du Valsonnier, vous êtes conseillère départementale.
Exactement, conseillère départementale du canton de Modane, donc c'est un territoire qui s'étale de Saint-Martin d'Arc jusqu'à Bonneval-sur-Arc. Voilà, c'est un canton qui est très significatif au niveau du nombre de kilomètres en superficie. Par contre, en densité démographique, eh bien, c'est pas ça. Donc du coup, il faut le faire valoir au niveau du département de la Savoie.
Il faudrait surtout le faire valoir à Paris, comme vous le savez, la ville de Paris est la ville, la troisième ville au monde après Bombay, à être la plus dense au monde. Voilà, venez vivre à Vassoni, pourquoi pas. Vous savez, l'exode urbain, c'est peut-être pas qu'une chose imaginaire. En tout cas, on en a tous envie. Quand je vois le décor ici, on se dit, avec mon ami Olivier Lucas, qu'on aimerait bien vivre dans le coin. Alors, Émilie Bonivard est avec nous. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Émilie, vous êtes députée de la 3e circonscription de la Savoie depuis 2017. Alors, pour des raisons de cumul des mandats, vous avez dû démissionner de certains autres mandats, notamment au sein du conseil régional. Vous êtes sous l'étiquette Les Républicains, me semble-t-il.
Je suis toujours conseillère régionale, mais je ne suis plus vice-présidente.
Oui, vous êtes plus, voilà, pardonnez-moi, voilà. Vous êtes toujours conseillère régionale, vous avez raison. Hein. Et par contre, vous n'êtes plus vice-présidente, voilà. Et vous êtes dans l'équipe de Laurent Wauquiez.
C'est ça, tout à fait.
Merci d'être avec nous. Je vous ai écouté, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Alors, vous avez la particularité, c'est que vous avez fait deux universités. Vous avez fait Savoie-Mont-Blanc et Nanterre.
Oui.
Vous avez une formation très internationale. Et pourtant, quand on voit votre parcours, quand je vous écoute, vous êtes hyper ancrée dans votre territoire, Émilie.
Oui, vous m'avez. C'est bien si je vous ai transmis ça dans mes mots. La raison de mon engagement politique, il est avant tout lié à ce territoire de Maurienne, de Haute-Maurienne et à ce territoire de Savoie. C'est un territoire très fort où on a des âmes qui sont très fortes, où les difficultés étaient très importantes au siècle dernier et où la construction de l'avenir s'est faite à la force du poignet. Les stations ont été construites dans les années 50-60 avec aussi une vision politique du général de Gaulle, de Pompidou, et qui a permis de donner un avenir aux montagnards, de leur offrir une perspective autre que celle de partir travailler dans les usines ou en ville. Elles ont permis aux Savoyards, aux Montagnards, d'avoir un avenir, de construire leur vie, leur famille en montagne. Donc le tourisme, pour nous, c'est extrêmement important. On est sur une radio territoriale et spécialisée sur les questions immobilières. On y reviendra certainement. On a de gros enjeux aujourd'hui dans nos territoires de requalification de cet immobilier de loisirs. C'est le cœur économique de la montagne, cet immobilier de loisirs avec les domaines skiables. Et notre rôle, c'est une vraie filière économique, on l'oublie parfois. Et notre rôle en tant qu'élu, c'est de faire en sorte que ce moteur économique-là continue à fonctionner, à bien fonctionner pour conserver une vie à l'année dans nos territoires de montagne, continuer à avoir des écoles, continuer à avoir des médecins. Voilà, donc on est très content aujourd'hui d'être à Fleurs et Neige et d'assister à cette inauguration.
Vous soulevez, Émilie, si vous permettez, je vais vous appeler Émilie.
Bien sûr.
Moi, c'est Sylvain, enchanté.
Enchanté, Sylvain.
Pour nos amis, pour ceux qui nous écoutent, vous le savez, on en parle beaucoup hein, sur nos antennes. C'est même assez désespérant de voir parfois dans certains villages, dans certains centres-bourgs, des démographies négatives, des personnes qui partent et des histoires finalement qui partent. Que quand vous dites finalement que les villages se vident effectivement pour des raisons purement économiques, où la jeunesse part parce qu'il n'y a plus d'école, parce qu'il n'y a plus de services, vous-même vous avez dû aussi partir pour faire des études supérieures, et bien effectivement c'est aussi une partie de l'étude et de l'histoire qui s'en va. Y a-t-il des alternatives, Nathalie, juste sur ces possibilités? Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ne voyons-nous pas finalement dans l'économie sociale et solidaire un moyen, un levier
totalement,
qui permet de sortir du cadre un peu, j'allais dire, strictement capitaliste, j'ai pas dit anticapitaliste, hein, j'ai dit post-capitaliste, oui, pour retrouver finalement une certaine harmonie, parce qu'on a bien compris, pour des raisons aussi d'environnement, que vivre en ville, entasser les uns avec les autres, c'est pas toujours des alternatives. Est-ce que c'est encore possible quand on est politique au niveau du département, Nathalie?
Totalement, et là vous touchez ma vie privée finalement, parce que moi je suis une Parisienne pure souche, née dans le 11e, voilà, et qui est venue m'installer ici il y a plus de 15 ans.
Quelle chance,
parce que
vous
avez. Mon mari était directeur de l'UCPA, donc voilà, on est exactement dans ce cadre-là, justement d'acteurs associatifs qui ont à cœur toujours de rester sur ce mouvement historique de « on fait découvrir la montagne aux urbains », notamment aux jeunes, pour qu'ils puissent s'ancrer sur les territoires, revenir. Émilie l'a souligné dans son discours, si on n'apprend pas le ski quand on est jeune, eh bien c'est fichu. Enfin, en tout cas, c'est fortement compromis.
Donc je suis vraiment cuit, moi, voilà. En ce qui me concerne.
Bon.
Mais j'adore la neige.
Eh bien, écoutez, Sylvain, venez prendre des cours avec moi, parce qu'on doit avoir le même niveau.
J'adore la neige, j'adore la neige.
Alors, mais pour revenir à ce que vous disiez sur le tourisme social et solidaire, c'est vrai que les acteurs historiques aujourd'hui, il faut prendre soin d'eux parce qu'ils sont parfois à la peine. Là, on a un contre-exemple ce matin et un bel contre-exemple parce que c'est des gens qui vraiment sont très dynamiques. Heureusement, ils s'assiedent sur des labels qui, eux aussi, ont une vision qui visiblement ont du poids en termes de marketing. Alors, je reviens sur ce développement marketing parce que sans ça, on est cuit. Aujourd'hui, on n'arrive pas à capter ces
nouvelles fédération. Par exemple, là on prend par exemple les 90 villages rattachés à Cap-France, qui est une fédération qui a été créée en 1949. Mais il faut se souvenir pourquoi ça a été créé en 1949. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a une alternative en fait où tout le monde ne peut pas partir en vacances, où tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances. Alors oui, certes, on a des congés qui ont été institués par l'année 36 avec le gouvernement Léon Blum, mais néanmoins, c'est né aussi d'un besoin pour équilibrer. Ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Vous avez parlé de tourisme social, familial, c'est-à-dire un tourisme adapté aux moyens des personnes.
Oui.
Parce que ça coûte un bras de partir avec des enfants à la neige, on dit les choses comme elles sont. Et donc ces initiatives-là sont formidables. Mais elles sont surtout, Nathalie, je suppose, un levier formidable pour revitaliser les villages.
Complètement. Alors en Haute-Marne danoise, on est dans une situation qui n'est pas catastrophique, loin de là, on est sur la stabilité démographique. Donc
vous avez une stabilité, vous avez une courbe démographique qui est positive
Alors positive, légèrement positive. On est à plus de...
Vous avez réussi à maintenir l'école?
Les écoles? Oui, on arrive à les maintenir.
Les services publics?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand ça vient de l'État.
Ah,
effectivement,
oui.
Voilà, on est toujours en négociation permanente.
Vous avez compris
permanente.
Pourquoi je vous pose la question?
Oui, complètement. C'est des sujets sur lesquels on est très très vigilant, bien évidemment, mais on n'est pas en déperdition. Haute-Maurienne-Vanoise est loin d'être en déperdition. Par contre, c'est vrai qu'on a des élus qui sont extrêmement engagés et très très vigilants sur ces maintiens-là.
Je suis ravi que vous soyez vraiment sur le plateau, toutes les deux. Et particulièrement, j'allais dire, dans l'incarnation de cette génération de politique qui émerge de la société civile. Parce qu'il faut rappeler à nos amis qui nous écoutent qu'il y a à peu près, en moyenne, entre 600 et 700 000 élus locaux tous les jours qui bossent gratuitement.
Merci
pour le savoir.
Merci à vous.
Non, mais il faut le savoir, parce que je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire combien se monte votre indemnité, mais elle est juste impossible. Il faut être clair, elle est juste impossible. Comment voulez-vous que nous ayons des élus, pardonnez-moi, de qualité, lorsque les indemnités qui leur sont données sont si faibles? C'est pas possible. Donc forcément, les classes se reproduisent par nature et par elles-mêmes. Alors je ne fustige pas la classe technocratique, bien évidemment, mais quand même, si on n'est pas issu de la fonction publique, on ne peut pas bosser dans ce genre de système. Et vous en savez quelque chose aussi, vous aussi, Émilie. Bien évidemment, c'est un sujet important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces villages la revitalisation des centres-bourgs? Le plan d'action cœur de ville, dont il faut saluer d'ailleurs l'initiative, initiée par Jacques Mézard à l'époque, n'y a-t-il pas finalement, parmi ces élus, une nouvelle génération qui a envie de redécouvrir finalement entre tradition et modernité un équilibre entre les deux? Est-ce que vous le sentez, vous qui êtes très ancrée dans votre territoire, Émilie?
Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est générationnel, moi j'ai 41 ans, mais on a envie de conserver et de transmettre ce que notre pays nous a donné de beau et de bien. On voit que la société change énormément. Que les rapports entre les individus changent énormément, que le rapport à soi, que le rapport au collectif change énormément. Beaucoup de droits, moins de devoirs. Voilà, ces choses-là, nous, on veut transmettre aux prochaines générations et aussi à nos contemporains le fait de leur rappeler ce qu'on doit au collectif. Nathalie, elle le disait, pourquoi il y a encore des gens ici en Haute-Maurienne-Vanoise? Parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a les stations de sport d'hiver. Et ce sont, alors, une nouvelle génération, je souhaite quand même rendre hommage aux anciens. Ces stations, elles sont là parce qu'il y a eu une décision politique. Il y a eu un volontarisme politique extrêmement fort. L'aménagement du territoire, c'est aux élus de le vouloir et de le faire.
Ah, je suis ravi que vous le disiez.
Exactement.
Mais les élus locaux,
les élus
départementaux,
bien sûr.
Et pas forcément toujours les préfectures, qui parfois ferait bien de laisser les élus travailler dans leur territoire. Vous le maîtrisez, votre territoire, vous le maîtrisez, et c'est important que vous le disiez. Mais il faut quand même, pardonnez-moi, hein, je vais faire mon journaliste, mais il y a eu un urbanisme triomphant dans ces années-là qui n'était pas très très joli non plus, hein, faut le dire.
Non.
Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de certains bâtiments dont vous ne saviez pas trop quoi faire. Franchement, il y en a beaucoup qui sont très moches. Hein. Ça ne va pas être évident quand même à gérer ça.
Mais à l'époque...
Je vous taquine.
Non, bien sûr, mais vous regardez une station comme le Corbier, donc les stations de quatrième génération.
Ah oui.
Mais je veux dire, ça répondait aussi à une époque.
Ça,
vous
juste.
Allez à oui. Flaine, enfin, vous voyez ce qu'a fait le Corbusier sur certaines choses. On peut le voir aujourd'hui comme quelque chose qui n'est pas beau ou parce que ce n'est pas les petits chalets. Il faut savoir que peut-être que ça ne répond pas aux standards de beauté d'aujourd'hui, mais on était sur un objectif de faire une nouvelle activité économique.
Ouais.
Donc,
très énergivore,
si vous faites des petits chalets, ouais. Beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui.
Ah oui, oui, oui.
Beaucoup
oui.
moins. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un bâtiment important avec beaucoup de logements, beaucoup de petits logements, vous arrivez à faire, à vendre beaucoup de forfaits, et vous arrivez à avoir un équilibre économique, à faire travailler les gens en consommant beaucoup moins de foncier que les tout petits chalets dont tout le monde veut et tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème, ils viennent dans mon village à Montémont, il n'y a pas de station à part entière, il y a des villages anciens, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il faut savoir ce que l'on souhaite, et à l'époque, c'est toujours difficile d'avoir un jugement a posteriori sur des décisions politiques qui ont 30 ans, qui nous ont sauvés. Qui nous ont sauvé ces décisions.
Vous
donc,
avez raison, c'est juste que
il faut bien évidemment les réhabiliter, mais il ne faut pas juger avec l'œil d'aujourd'hui les aménagements d'hier, parce que ces aménagements, s'ils n'avaient pas été faits comme cela, les stations n'existeraient pas.
Vous avez raison.
C'est important de le dire.
Vous avez raison. Bien évidemment, ceci n'est pas opposable au fait qu'aujourd'hui, on a droit à un esthétique un petit peu différent, beaucoup plus humain, beaucoup plus apaisé. Effectivement, mais vous avez raison de le dire, le sujet de la transition énergétique et du développement durable en montagne, c'est hyper important, Nathalie.
C'est absolument critique. Je vois, au-delà hein, du canton, j'ai aussi une responsabilité à la communauté de communes et je suis en charge notamment du tourisme. Et on a développé une vision à 2030 qui est entièrement axée sur le développement durable, parce que sans avoir cette politique-là, on n'arrive plus aujourd'hui à avoir des effets de levier sur la démographie, l'économie, le social, l'environnement. Donc vous avez souligné tout à l'heure la naissance du parc national de la Vanoise. On s'appuie sur des acteurs comme cela.
Quelle initiative extraordinaire de cette création.
Ah oui, encore faut-il savoir la faire vivre au niveau
sûr.
Des habitants.
D'ailleurs, il y a des élections bientôt, là, il me semble.
Alors, elles sont passées.
C'est fait ?
Oui, exactement. Eh bien,
je crois que c'était le... Ah oui, oui,
non,
effectivement.
Non, c'était jeudi, oui, et c'est Rosanne Hartz. Je suis très fière de dire que Rosanne Hartz a été nommée présidente.
Ça y est.
Et je remplace Rosanne Hartz au niveau du département. Donc, il y a quand même une légère filiation, on va dire.
Ah oui, voilà. Vous avez placé la barre très haut, là. Hein. En plus, effectivement, Rosanne Hartz s'est bien battue, d'ailleurs, aussi,
oui.
pour ce projet.
Oui.
Je voudrais juste rappeler quelques chiffres clés. On va en reparler tout à l'heure dans les émissions que l'on va faire, parce que je vous propose qu'on fasse connaissance avec ce fabuleux village et cette région pendant toute cette journée. Le coût de la rénovation pour une maison comme celle-ci, c'est 2 100 000 euros. C'est 43 chambres, 110 lits. Ça a été créé en 1957. Et je peux vous dire que quand on voit la grille tarifaire et que l'on voit la façon dont est structurée ces structures d'accueil faisant partie de la fédération dont j'ai parlé tout à l'heure qu'est France, je peux vous dire que c'est pas évident hein, en termes de structuration. Il faut rappeler aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que les classes de neige puissent venir, parce qu'effectivement vous savez ce qui se passe en ce moment avec le taux d'incidence qui a littéralement augmenté. On va pas dire qu'il n'y a pas effectivement de sujet. Bon, il faut aussi parfois un peu raison garder. On s'en relèverait pas s'il y avait des restrictions plus importantes, parce que c'est ce que j'ai compris un peu dans votre discours tout à l'heure.
Alors,
Émilie, s'il y avait aujourd'hui une décision du gouvernement de restreindre avec cette cinquième vague qui nous touche,
ça dépend à qui vous restreignez en fait. C'est-à-dire que sur les stations, on a trois clientèles, trois types de clientèle. La clientèle étrangère, là, on est en risque maximum. Voilà. Y a des stations qui dépendent beaucoup de la clientèle étrangère.
Qui viennent pas.
Et avec le pass sanitaire et une troisième dose où on n'a pas d'uniformité, ne serait-ce qu'au niveau européen, les étrangers, les Belges, qui sont une clientèle importante, notamment des stations moyennes, les Néerlandais, ne pourront pas venir en janvier.
Ici notamment.
Voilà. Donc pour nous, c'est extrêmement dommageable parce que le mois de janvier fonctionne avec ces clientèles-là. Puis vous avez des grosses stations qui dépendent à plus de 50% parfois de la clientèle étrangère. Deuxième clientèle critique, ce sont les enfants et les classes de neige. Je l'ai dit, cette clientèle-là, elle est essentielle pour tout l'écosystème de nos stations. On s'est beaucoup battu pour que le gouvernement, moi je me suis beaucoup battu pour que le gouvernement mette en place un plan de relance des classes de neige, des classes de découverte. Là aujourd'hui, effectivement, avec le taux d'incidence, on a une incertitude. On a vraiment poussé pour que le rectorat, pour que le ministère donne des consignes extrêmement claires et que les enseignants disent « vous pouvez y aller ». Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on va prendre contact évidemment avec les cabinets ministériels pour voir où on en est. Et puis la clientèle française sur laquelle on va tout miser, beaucoup, et notamment aussi sur les enfants, les jeunes de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, du département, qui sont aussi essentiels et qui peuvent venir faire des séjours ici. On parle beaucoup de l'Île-de-France, beaucoup des autres départements, mais si déjà on arrive à mobiliser nos classes, nos collèges, nos lycéens de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, du département, pour venir dans nos centres de vacances, c'est une clientèle qu'il faut aussi aller chercher.
Absolument, et surtout dans ce cadre-là, je pense que c'est tout à fait clair. Alors, voilà, il est l'heure de nous quitter. Oui, voilà.
Dommage.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, Nathalie Furber?
Eh bien, que ma région, là j'ai envie de dire la région, hein, pour le coup, continue de se développer, parce que notamment, et là je reviens au niveau Savoie, on est hyper dynamique. Aujourd'hui, sur l'économie touristique, certes c'est 50% du PIB, mais sur Haute-Maurienne-Vanoise, donc dont on fait partie au soir, on parle de 87%, donc c'est une dépendance qui est énorme, donc des inquiétudes, hein. Quand même, par rapport à toutes les décisions qui pourraient intervenir au niveau gouvernemental, avec malgré tout, j'ai envie de dire une lueur d'espoir, parce que quelque part, on n'est pas dépendant de la clientèle étrangère comme ça, même si le podium, effectivement, c'est un Belge, deux Pays-Bas, trois Anglais et autres. On n'a pas cette dépendance-là, donc c'est une grande chance, je dirais. Par contre, c'est vrai que sur les scolaires et les jeunes, il y a un gros travail à faire de conviction
avec
vis-à-vis
un
de l'éducation nationale.
Absolument. Et je pense que effectivement, c'est un sujet dont on reparlera régulièrement. On viendra vous voir d'ailleurs chez vous à Balsony avec grand plaisir.
Merci
Nathalie
Sylvain.
Furber. Je rappelle que vous êtes maire adjointe de la commune de Balsony et conseillère départementale. Un grand merci à vous, Émilie.
Merci.
Bon hiver. Je sais que vous allez aller skier tout à l'heure. Vous êtes monitrice de ski, il me semble.
Oui.
Aussi, toujours.
Oui. Alors, oui, non, je ne peux plus enseigner
maintenant.
depuis 4 ans. J'en sais plus, j'arrive plus à avoir le temps.
Bon, vous donnez des cours de ski à des vieux, des gens âgés.
Et je vous prendrai avec moi, Sylvain.
Voilà, c'est gentil.
Avec joie. Avec joie.
En plus, si je comprends, ça fait 20 ans que je veux aller au ski
et
j'y vais pas.
À tout âge. Vraiment, alors je le dis, là, c'est la motrice qui parle, on peut apprendre à tout âge.
Bon.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus facile quand on apprend enfant. Mais vraiment, vous êtes adulte, vous avez envie de
bon,
skier.
Bon, allez, à 57
venez,
ans,
à 57 neige,
ans, il y a de l'espoir pour tout le monde. On va y aller, même à mon âge, finalement, il y a toujours de l'espoir. Merci Émilie Bonhiver, je suis ravi que vous soyez venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes députée de la 3e circonscription de la Savoie et vous êtes aussi conseillère régionale dans le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est présidé par Laurent Wauquiez. Il y a des élections, il n'a échappé à personne, qui vont être un peu sportives cette année. Je pense qu'on va suivre tout ça avec beaucoup de vigilance. Merci à toutes les deux, je vous souhaite une excellente journée.
Merci.
L'immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleur et Neige, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Immo et Radio Territoria.